France Inter, franceinter.com.
Et oui, c'était le 1er mai 1993, il y a 15 ans, jour pour jour.
Il avait de la valeur.
Un homme comme ça, il n'y en a pas deux.
Moi, je trouve qu'il a fait tout ce qu'il a pu, cet homme-là.
Je suis ému, c'est sûr. Qu'est-ce qui ne peut pas être ému à Nevers ?
Deux mille ans d'histoire. C'était le soir d'un 1er mai comme les autres. Les défilés des syndicats venaient de se terminer. Les vendeurs de Muguet rentraient chez eux et dans son bureau de France Inter, Henri Charpentier préparait les titres de son journal de 19h. Il ignorait qu'au même moment, quelque part le long du canal de Nevers, Pierre Bérégovoy venait de se tirer une balle dans la tête. Découvert dans le coma par son chauffeur et son garde du corps, celui qui un mois plus tôt était encore Premier ministre de François Mitterrand, était conduit d'urgence à l'hôpital de Nevers. Au même moment, à 19h06, en plein milieu de son journal, alors qu'il parlait de la visite d'Édouard Balladur à la Foire de Paris, Henri Charpentier recevait dans son studio une dépêche qui allait bouleverser la France entière.
France Inter.
Le Premier ministre a visité la Foire de Paris. Le bon exemple, a-t-il dit, du dynamisme, du courage et de l'esprit d'invention dont notre pays a plus que jamais besoin. C'est l'exemple, la Foire de Paris, donc du dynamisme, du courage et de l'esprit d'invention dont notre pays a plus que jamais besoin. Et puis, à l'instant même, cette information qui me parvient à prendre pour le moment encore au conditionnel, l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy aurait tenté de se suicider d'une balle dans la tête cet après-midi à Nevers. Cette information vient de tomber à l'instant même sur nos téléscripteurs et pour l'instant, nous la mettons encore toutefois au conditionnel. Je vous le rappelle donc, l'ancien ministre Pierre Bérégovoy aurait tenté de se suicider d'une balle dans la tête aujourd'hui dans sa ville de Nevers.
Et c'était Henri Charpentier, le 1er mai 1993, interrompant le journal d'Inter à 19h pour annoncer le suicide de Pierre Bérégovoy qui allait mourir 3 heures plus tard dans l'hélicoptère qui le conduisait de Nevers à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Jacques Folleroux, bonjour.
Bonjour.
Alors tous ceux qui en ont l'âge se souviennent de ce 1er mai 1993, le suicide d'un ancien Premier ministre, ce n'est pas banal, au point d'ailleurs que certains se sont demandé, on l'a entendu dans le journal qui précédait cette émission, et se demandent encore d'ailleurs s'il n'a pas été assassiné, une hypothèse que vous réfutez vous-même dans un livre qui vient de sortir chez Fayard, Bérégovoy, le dernier secret. Alors le dernier secret de Pierre Bérégovoy, c'est pas qu'il ait été assassiné.
Non, bien sûr, c'est que pour essayer, mais je me demande même si des fois c'était pas un peu vain d'écarter les thèses conspirationnistes, mais en effet, il y a
un certain nombre
d'éléments aujourd'hui
et se produit,
ouais, de nouveaux éléments, donc en effet, que j'apporte dans le livre, qui confirment la thèse du suicide et qui la renforce. Des éléments simples, des éléments comme l'existence en fait d'un courrier, d'une lettre qu'il avait donnée à son gendre, qui est devenu ex-gendre, l'existence d'éléments d'enquête, en particulier l'autopsie qui est un élément important, un élément scientifique qui atteste bien que c'est bien lui qui a utilisé cette arme à bout touchant, comme on dit en termes médical. Voilà, il est véritablement l'auteur de sa propre mort, j'ai envie de dire.
Alors vous apportez un autre dernier grand secret, on en parlera à la fin de l'émission, mais si la mort de Pierre Bérégovoy a bouleversé les Français, c'est pas seulement parce qu'il s'agissait d'un suicide et du suicide d'un Premier ministre, mais c'est parce qu'il avait aussi une carrière exceptionnelle, vous le rappelez, même à gauche, on n'avait jamais vu un Premier ministre venu d'un milieu aussi modeste, Jacques Folleroux.
C'est l'un des paradoxes d'ailleurs de cet homme, et je vous cache pas une des découvertes que j'ai pu faire en voyageant un peu avec lui, en vivant avec lui pendant des mois dans le cadre de l'ouvrage. C'est-à-dire que j'ai rarement vu un homme qui offrait une apparence aussi bonhomme, aussi pateline, aussi ronde, aussi tranquille, j'ai envie de dire, et qui cohabitait avec une vie intérieure aussi forte, avec une espèce de violence et de rigueur qui lui a sans doute permis de traverser autant de plafonds, j'ai envie de dire, sociaux, de traverser autant de couches sociales.
En commençant très bas, un CAP d'ajusteur, fils d'un immigré ukrainien.
C'est le fils d'un capitaine cosaque qui a émigré en France
en 18.
Après l'arrivée l'arrivée des bolcheviks et capitaine Kozak qui recommence vraiment au bas de l'échelle comme ouvrier, qui va se marier avec la fille d'une épicière de Rouen. Et Bérégovoy a effectivement eu vraiment une vraie vie d'ouvrier. Il a même commencé comme ouvrier au plus bas niveau. Ça a duré un an et au bout d'un an, il s'est juré de changer de vie.
D'ailleurs, on a souvent, quand il a commencé sa carrière politique, il s'inscrit au PS, on disait à la SFIO à l'époque en 1945, puis en 81, dans la foulée de François Mitterrand, il devient secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de François Mitterrand avant de devenir Premier ministre. Mais souvent, on lui renvoyait à la figure ses origines, hein, avec une certaine condescendance dont il souffrait, Jacques Folloroux.
Oui, j'aurais envie de nuancer. Il y aurait peut-être deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a en effet une forme de condescendance, mais qu'il ressent davantage vers la fin de sa carrière, à l'époque où il est devenu un homme d'État. Où il est vraiment l'un des piliers de la Mitterrandie, du socialisme français au pouvoir, où il y a en effet cette espèce de différence sociale, cette différence de classe, plus culturelle, j'ai envie de dire, où on voit bien que parmi les piliers de la Mitterrandie, il y a des milieux différents, il y a des cultures différentes, et qu'à titre individuel, il est peut-être moins drôle, il a peut-être moins de culture que les personnes qu'il fréquentait à cette époque-là, et qui lui renvoient un peu ça à la figure. Mais en revanche, au début, je pense qu'il en joue lui-même un peu. C'était aussi une façon de se faire valoir politiquement. Et il est aussi peut-être, lui, valorisé par ses propres camarades en disant « Regardez, le socialisme français, ça n'est pas qu'un socialisme bourgeois. Regardez, dans nos rangs, nous avons un véritable ouvrier, un véritable homme du peuple. »
Alors, Premier ministre le 2 avril 1992, un Premier ministre atypique, le premier à mettre au programme de son gouvernement quelque chose qui était un tabou, à droite comme à gauche. Il en parlait le jour de son premier discours de Premier ministre, une déclaration de politique générale assortie d'une menace qui allait mettre en rage les députés de droite. C'était le 8 avril 1992.
La parole est à Monsieur le Premier ministre. J'entends vider l'abcès de la corruption. J'ai demandé aux gardes des Sceaux de pousser les feux de la justice et du châtiment pour les coupables. Les procédures seront conduites à leur terme dès lors qu'elles révéleront des actes frauduleux commis à des fins d'enrichissement personnel. Je vous demande, les yeux dans les yeux, de m'entendre. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Comme je suis,
pas d'injure,
mais comme je vous l'ai dit,
qu'est-ce que vous dites ?
Je ne le ferai pas.
Incroyable ce discours de politique générale, le premier discours de Pierre Bérégovoy devenu Premier ministre, quand on songe que c'est plus tard sur le terrain de la corruption qu'il sera accusé. Une erreur, hein, ce discours, dites-vous, Jacques Folloroux ?
Oui, plus qu'une erreur, un peu une monstrueuse bévue en termes politiques, j'ai envie de dire.
C'est-à-dire que c'est une liste dont on ne cite pas les noms.
Voilà. Mais... alors l'histoire, maintenant, on la connaît. C'est-à-dire que c'est l'incontournable, l'ineffable Michel Charaz qui, une heure avant, lui conseille de rédiger une liste au cas où il est attaqué. Alors aujourd'hui, Michel Charaz dit « Mais non, mais je ne lui avais pas demandé de la présenter comme ça. Il fallait qu'il la garde au cas où il était attaqué, ouais, etc. » Bon, les conseillers de Bérégovoy disent c'est Charaz qui l'a mis dans le pétrin. Alors que, et c'est ça, c'est en ce sens que c'est une sorte de fou, qu'il avait toutes les cartes en main. C'est-à-dire qu'il bénéficiait d'une popularité qui était reconnue. Les sondages le plaçaient en haut. L'opinion publique était plutôt satisfaite de voir un tel homme à la tête du gouvernement et qu'il avait un programme de gouvernement qui était quand même assis sur trois éléments quand même forts, qui étaient la bataille pour l'emploi, la sécurité et la lutte contre la corruption. Et la lutte contre la corruption, c'était un message qui était d'autant plus signifiant à l'époque que on est au début des années 90. À cette époque-là, l'équité face à la justice recouvre totalement l'attente de justice sociale, j'ai envie de dire, au sein de l'opinion publique. Parce que la justice, elle s'est attaquée à l'époque aux délits financiers, au mélange de l'argent public et de l'argent privé. C'est à cette époque, cette espèce de couple, d'ailleurs justice-média, font bouger les piliers de la démocratie de l'époque, pouvoir politique, pouvoir économique. Et la justice, elle fait bouger les lignes à l'époque. Elle va finalement moderniser un peu la démocratie. Et c'est à l'époque l'argent fou. Il y a une casse sociale et une violence sociale qui est ressentie par la population. Et finalement, par le biais judiciaire, Bérégovoy prend un peu le taureau par les cornes et dit voilà, les choses vont changer et la justice ira au bout.
Et ça explique sa popularité pendant tout le début de ses fonctions de Premier ministre, au point d'ailleurs qu'il envisageait, vous le rappelez effectivement, Jacques Folloroux, il envisageait pourquoi pas l'Élysée.
Oui. Alors ça aussi, c'est assez surprenant quand l'image qu'on conserve un peu de Pierre Bérégovoy, un homme plutôt modeste, était en fait nourri d'une ambition féroce, mais vraiment féroce. C'est-à-dire que l'un de ses conseillers, dès 81, l'un de ses conseillers me rapporte de façon ouverte que Pierre Bérégovoy se voyait un peu comme le Pompidou de Mitterrand.
Ouais. Hein,
et donc il va, 92, quand il devient Premier ministre, c'est l'aboutissement, trop tardif à son goût, pour la dernière marche avant d'accéder à l'Élysée, auquel il croit.
Un rêve qui allait se briser lorsque le 2 février 1993, 10 mois après son arrivée à Matignon, Le Canard Enchaîné publiait un article qui allait faire basculer la vie de Pierre Bérégovoy.
Le Canard Enchaîné révèle aujourd'hui que Pierre Bérégovoy a bénéficié en septembre 86, alors qu'il était député, d'un prêt sans intérêt d'1 million de francs, et ce, de la part de Roger Patrice Pelat. Roger Patrice Pelat qui devait 3 ans plus tard être inculpé dans le scandale de l'affaire Péchiné. Cette révélation a d'ailleurs été confirmée il y a peu par l'entourage de Pierre Bérégovoy, qui précise qu'il s'agit d'un prêt consenti par un ami personnel du chef du gouvernement pour l'achat de son appartement parisien.
Pierre Bérégovoy contre-attaque. Le Premier ministre dénonce une machination et une campagne de calomnie, ce sont ses propos.
Il y a quelques heures à Paris, après avoir pris connaissance des campagnes d'insinuation, j'ai dit que nous étions en présence d'une machination comme on en a déjà connu dans le passé. Je suis devant vous, la conscience tranquille, mais je constate que la machination, elle est ici aussi.
C'était à Orléans, juste après la révélation du Canard Enchaîné, Jacques Folloroux. Le Canard Enchaîné révélant donc ce prêt de 1 million de francs accordé par Roger Patrice Pelat pour que Pierre Bérégovoy puisse acheter un petit appartement, d'ailleurs pas très important. C'était une affaire qui datait de 7 ans, hein, c'était 7 ans plus tôt. Et l'affaire n'avait rien du tout de frauduleux. Un prêt sans intérêt, ça peut se faire. Ce qui était en revanche extrêmement gênant, c'est celui qui avait prêté de l'argent à Pierre Bérégovoy, Jacques Folloroux. C'est Roger Patrice Pelat.
Absolument. Je pense que cette affaire, au-delà du faux procès, à mon avis, qui a pu être fait à la presse, etc., sur la mise en cause d'un personnage public, etc. Je pense que la vraie question n'est pas là. Je pense que ce qui est intéressant avec le prêt Pelat, c'est qu'on touche directement à l'une des failles de Pierre Bérégovoy, qui est: pour quelle raison a-t-il en 86, vous avez raison de le rappeler, en 86, pourquoi accepte-t-il ce prêt d'1 million de francs sans intérêt de Roger Patrice Pelat? Je pense que toute personne peut facilement imaginer qu'à l'époque, il a été ministre de l'économie et des finances depuis 2 ans, il a été secrétaire général de l'Élysée, ministre des Affaires sociales, il aurait pu très aisément aller voir une banque et qui lui aurait fait un taux avantageux. Enfin, on va dire, il aurait facilement pu avoir cet argent autrement. Pourquoi il accepte l'argent de Roger Patrice Pelat? Et là, je pense qu'on touche au cœur même de son problème, ou des problèmes qu'il a pu avoir après. C'est parce que Roger Patrice Pelat est l'un des personnages clés de l'entourage immédiat, le plus proche, j'ai envie de dire.
Ami intime de François Mitterrand.
Et que Pierre Bérégovoy, finalement, toute sa vie politique, toute la fin de sa vie politique, est en perpétuelle recherche de reconnaissance de Mitterrand. Et qu'en nouant, en acceptant cet argent, c'est une façon pour lui de renforcer un lien avec Mitterrand.
Oui, mais parce que Roger Patrice Pelat, il faut le rappeler, quand même un personnage plutôt sulfureux, mêlé à l'affaire Péchiné, mis en cause dans l'affaire de la vente d'une de ses entreprises, Vibrachoc, qui a été achetée 4 fois ou je ne sais pas combien de fois son prix par une entreprise publique, sans doute à la demande de François Mitterrand. Alors tout ça, évidemment, ça fait peser un doute, non pas sur... Le prêt, il était reconnu, il était parfaitement légal, mais sur le fait que Pierre Bérégovoy l'aurait peut-être accordé en échange de contrepartie que jamais personne n'a pu découvrir. Mais en tout cas, c'est ce que dit la presse, qui ne pardonne pas un Premier ministre qui, d'ailleurs, un an plus tôt, avait promis de lutter contre la corruption, et puis un chef de gouvernement, de gauche et d'origine populaire, qui devient la cible de la presse et de ses caricaturistes.
Libération, 17 février 1993. L'effet cadeau. Dans quel monde vit désormais celui qui, issu d'un milieu populaire, ne s'étonne même plus de se voir offrir 100 briques? Est-il si ingénu pour croire que l'on suspectera jamais la moindre contrepartie? Jean-Michel Helving.
Justice toujours avec l'affaire Bérégovoy. Alors, monsieur Bérégovoy, comptez-vous démissionner?
Et vous, monsieur Darvor?
Merci, monsieur Bérégovoy.
Bon, alors, est-il blâmable d'aider un ami dans le besoin?
Oui.
Canal Plus, non, les guignols de l'info, 17 février 1993.
Je ne sais pas combien ça gagne un Français moyen. Disons, je ne sais pas.
Je ne sais pas, faut bien compter dans les. Oui, je ne sais pas. Enfin,
disons, par mois, 100 000 francs? Net? Hein? Brut? Non?
Dans ces eaux-là, oui.
Les chiffres apportent peu. Ce qui compte, et c'est pour ça que ce procès est intolérable, c'est de garder la conscience de la vraie valeur des choses. Un ami est un ami, et la vie publique n'y change rien.
Oui, ça, je suis bien d'accord avec vous.
Je demande aux Françaises et aux Français qui m'écoutent de croire en la parole que je leur donne. Pour le reste, puis-je demander? Puis-je demander que l'on respecte ma vie privée? Car croyez-moi, ma famille et moi avons beaucoup souffert des insinuations que nous avons entendues.
C'était un vrai calvaire, vous le rappelez, Jacques Folleroux, les 3 mois qui ont suivi la révélation du canard et jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Pierre Bérégovoy, très éprouvé par les attaques de la presse.
C'est une descente aux enfers, une vraie descente aux enfers, un échec personnel. L'affaire Pelat met en cause son image, non seulement son image publique, mais aussi qui va jusqu'à porter atteinte à l'image qu'il se fait de lui-même. Car cet homme, la différence, moi j'ai travaillé pendant plus de 10 ans sur les affaires politico-financières, je peux vous assurer que je n'ai jamais vu quelqu'un de réellement malhonnête qui se suicide. Un homme qui se suicide, c'est un homme qui a un enjeu, qui place un véritable, je veux dire, qui est confronté à un véritable dilemme par rapport à l'image qui se fait de lui-même et à l'ambition qu'il avait. La reconnaissance qu'il en attendait. En revanche, il y a aussi un échec politique personnel. Cet homme voulait arriver à l'Élysée, il est arrivé à Matignon trop tardivement à son goût, et là l'échec aux législatives.
Oui, parce que ce qui explique, on est en plein au moment de cette affaire, de la révélation du canard, on est en pleine campagne pour les législatives de mars 93, et dans un contexte qui est très défavorable à la gauche. Il fait campagne alors qu'il est en même temps attaqué. C'est pour ça qu'il est chahuté d'ailleurs dans les réunions publiques.
À l'époque, il est Premier ministre, c'est lui qui tient la campagne parce que Laurent Fabius est mis en cause dans l'affaire du sang contaminé, donc il est hors jeu. Donc c'est en effet Pierre Bérégovoy qui doit porter non seulement la campagne des socialistes, on est en fin de règne socialiste, il est dans le même temps mis en cause dans l'affaire du Prépelat, donc c'est un calvaire. Comment sa parole peut-elle être audible? Et puis il y a un échec aussi de la gauche, dès la campagne, on le sent bien. C'est-à-dire que il porte finalement l'échec de cette gauche, l'échec de cette équation quasi impossible entre l'aspiration à réformer la société, à la rendre plus juste, et l'aspiration à gouverner. Et que cette faillite finalement de l'aspiration socialiste, quand il se tire une balle, c'est pas simplement à lui-même, c'est aussi à la gauche française qu'il est envoyé.
Le résultat de cette campagne est catastrophique. On n'a jamais vu la gauche avoir un tel résultat, notamment le PS, qui se retrouve avec 57 sièges contre 275 dans la précédente législature, c'est-à-dire qu'ils ont perdu en mars 93 les 4/5 de leurs députés. Et aussitôt, Pierre Bérégovoy s'en accuse lui-même, s'en rend responsable.
Oui. Alors ça, c'était peut-être, on touche aussi à la dimension méconnue du personnage, cette ambition féroce, cette aspiration un peu, j'ai envie de dire, pardonnez-moi le mot, mais un peu messianique. C'est-à-dire que toute sa vie, finalement, il a traversé. C'est un homme qui s'est construit face à l'épreuve. C'est un hyper réaliste, c'est un pragmatique qui s'est confronté, dont il tire sa force de cette confrontation perpétuelle avec la réalité et de sa capacité à la dépasser, à la dominer. Or là, pour la première fois, cette réalité va le dominer, va le casser. Et en plus, il a tendance à porter tout sur ses épaules, il va aussi porter finalement la gauche, il va porter aussi le peuple de gauche et le peuple finalement qui aspire à plus de justice sociale. Et lui, c'est un véritable échec.
Et il se retrouve seul, il se sent coupable, il donne le sentiment que plus personne, ou il dit que plus personne ne veut lui parler. Et ça finit le 1er mai donc 1993, il se tire une balle dans la tête à Nevers avec le revolver que son garde du corps avait laissé dans la boîte à gants de sa voiture. On le découvre dans le coma. Il devait mourir à 22h15 dans l'hélicoptère qui reconduisait donc le corps de Pierre Bérégovoy à l'hôpital du Val-de-Grâce.
Monsieur Pierre Bérégovoy.
Et il finit, ça finit le 1er mai donc 1993, il se tire une balle dans la tête à Nevers avec le revolver que son garde du corps avait laissé dans la boîte à gants de sa voiture. On le découvre dans le coma, il devait mourir à 22h15 dans l'hélicoptère qui reconduisait donc le corps de Pierre Bérégovoy à l'hôpital du Val-de-Grâce.
Monsieur Pierre Bérégovoy est décédé le samedi 1er mai 1993 à 22h15 au cours de son transfert de l'hôpital de Nevers à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce.
Il avait de la valeur. C'est dommage, les gens ont quand même... Il s'est senti abandonné.
Un homme comme ça, il n'y en a pas deux. Il y en a peut-être deux, mais encore... Je suis ému, c'est sûr. Je suis obligé. Qu'est-ce qui ne peut pas être ému à Nevers?
On perd beaucoup. Pourtant, je suis une chômeuse, madame, voyez.
Moi, je trouve que c'est un brave homme qui vient de nous quitter. Il a fait tout ce qu'il a pu, mais on lui a peut-être mis des bâtons dans les roues, comme on dit vulgairement. Hein. Le pauvre homme, il a été trop abattu par tout ce qu'on a pu raconter sur lui. Puis il voyait que plus ça allait, plus on l'enfonçait. Moi, je trouve qu'il a fait tout ce qu'il a pu, cet homme-là.
Moi, je pense qu'il a trop fait, moi. Ça devait arriver, moi, je crois. C'est tout. Malheureusement, j'étais pas là pour l'empêcher.
Personne à l'époque, Jacques Folleroux, on le voit, ne doute du suicide de Pierre Bérégovoy. Ce n'est qu'après qu'on a envisagé l'hypothèse, que vous jugez assez farfelue, d'un assassinat.
Tous les éléments connus à ce jour ne peuvent que confirmer la thèse du suicide. Toutes les
personnes, il en avait parlé lui-même, il avait écrit une lettre.
Toutes les personnes qui l'ont connu, fréquenté à l'époque, avaient connaissance justement de cette dépression, de cette désespérance permanente, de ce ton, si vous voulez, totalement abandonné. Et c'est vrai qu'à l'époque, quelques semaines avant qu'il ne se donne la mort, il présente deux lettres à son gendre de l'époque. Il y en avait une qui était adressée donc au gendre et une autre à François Mitterrand. Le gendre ouvre celle qui lui était destinée et c'est la lettre de quelqu'un qui entend se donner la mort et qui demande à la personne à qui il adresse la lettre de prendre soin de sa famille et de sa mémoire, etc. Donc, et par ailleurs, je veux dire...
Le voyait déprimé la veille. Il avait été voir un médecin au Val-de-Grâce pour qu'il lui donne des médicaments. Oui,
oui, non, mais c'est un...
Il y a quelque chose aussi qui a dit, Madame Gilbert Bérégovoy, que j'avais rencontré à l'occasion d'une émission sur France Culture, me disait qu'elle trouvait bizarre, sans penser d'ailleurs à la thèse du suicide, la disparition d'un carnet qu'il avait dans sa poche. On a découvert beaucoup plus tard, récemment d'ailleurs, ce qu'était devenu ce carnet.
Alors on pourrait énumérer tous les points qui sont faussement bizarres, mais c'est vrai que le carnet noir, c'est beaucoup plus simple qu'on l'a dit. En effet, il y a un carnet noir qui est en fait un répertoire dans lequel figuraient des noms, mais qui était l'entourage privé, intime de Bérégovoy, qui a été conservé par d'abord par le directeur du cabinet de Bérégovoy à Nevers, puis le gendre, mais pour ne pas froisser, voilà.
Affaires d'ordre privé qui étaient dedans.
D'ordre privé. On pourrait dire l'autopsie par hasard. Par ailleurs, des gens disent qu'elle n'a jamais existé. Elle existe.
Alors, il y a un élément nouveau qu'apporte votre livre, Jacques Folleroux, j'en avais jamais entendu parler. C'est qu'il n'y avait pas, et c'est ça qui expliquerait l'angoisse de Pierre Bérégovoy avant de se suicider, il n'y avait pas que le prêt Roger Patrice Pellat.
Non. Au-delà de la dépression, au-delà de l'échec collectif dont il se rend responsable, il y a une peur panique obsessionnelle, d'accord, qui m'est rapportée par les plus proches de Bérégovoy à l'époque, qui est la peur de voir la justice perquisitionner, saisir ses comptes, etc. Au-delà même du pré-Pellat. Et en fait, c'est la vraie peur, visiblement, c'était celle-là. C'était de découvrir que sur ses comptes, entre 85 et 87, des fonds en liquide avaient été déposés. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on a affaire à un homme malhonnête. Cet argent, c'était visiblement quoi ? C'était à une époque où la vie politique n'était pas encadrée par une loi de financement. C'était des gens qui l'ont aidé. On aurait découvert aussi que cet argent lui avait permis de combler les manques de tel ou tel proche, etc. Mais imaginez, après l'affaire Pellat, la découverte de tels éléments, c'était vraiment la fin et il ne pouvait pas le supporter. Et j'ajouterais juste une chose, je pense que ce qui l'a fait basculer, me semble-t-il, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça aurait démontré, en tout cas à lui-même, qu'il n'a pas été capable de protéger les siens, de protéger son image et celle de sa famille.
Alors ces révélations, vous les donnez dans le détail, dans votre livre, Jacques Folleroux, et on ne les connaissait pas à l'époque. Et lorsque, 4 jours après son suicide, Pierre Bérégovoy était enterré à Nevers, en présence de François Mitterrand, qui faisait son éloge en accusant la presse d'être responsable de sa mort.
Je parle au nom de la France. Lorsque je dis devant son cercueil, qu'avec Pierre Bérégovoy, elle a perdu l'un de ses meilleurs serviteurs et qu'elle en prend conscience sous le choc d'un drame où se mêlent grandeur et désespoir. La grandeur de celui qui choisit son destin, le désespoir de celui qui souffre d'injustice, à n'en pouvoir se plaindre, à n'en pouvoir crier. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme, et finalement sa vie, au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous.
Et c'était François Mitterrand le 4 mai 93, visiblement ému. Les chiens, Jacques Follero, évidemment pour lui, c'était les journalistes. Mais est-ce que ce n'était pas aussi la volonté de détourner au fond, de le détourner de sa propre responsabilité? On a beaucoup dit qu'il avait été, il avait abandonné Pierre Bérégovoy lorsque celui-ci avait quitté Matignon après le désastre électoral de 93.
Je pense que Mitterrand, par ce discours, poursuit plusieurs objectifs. Je pense que son émotion que personne ne met en doute.
Bah, elle est audible.
Elle est audible. Je pense que c'est celle d'un chef de clan qui s'accuse, un vrai chef de clan, qui s'accuse de ne pas avoir été capable de protéger l'ensemble des membres de ce clan. La justification d'un chef pour être reconnu comme chef, c'est la capacité non seulement à protéger les siens, mais aussi à promouvoir, etc. Et là, c'est un homme qui n'a pas su déceler la dépression et le désespoir d'un de ses membres, d'un de ses protégés. Par ailleurs, je veux dire, si on poursuivait le discours, on verrait qu'il y a aussi toute une deuxième partie du discours qui a, comment dire, un objectif purement politique. La gauche a perdu, une défaite historique, on l'a dit. C'est aussi une façon de défendre le bilan de cette gauche au pouvoir, qu'il est lui le premier, dont il est le premier symbole, le premier responsable. Et donc, si vous voulez, après, sur la thèse de l'abandon, je vais vous dire franchement, après avoir travaillé des mois sur Bérégovoy, je n'y crois pas vraiment. Je pense que s'il y a eu une mise à distance, c'était celle d'un, voilà, parce qu'un homme qui vous harcèle tout le temps en demandant de la reconnaissance, de l'attention, etc., ça peut y avoir eu de l'impatience, peut y avoir eu une espèce de mise à distance. Mais je pense que la relation entre Mitterrand et Bérégovoy en 93, elle est exactement la même qu'en 78, à l'époque où vraiment où Mitterrand intègre définitivement Bérégovoy dans son entourage. C'est un fidèle serviteur, c'est un magnifique serviteur.
Une victime expiatoire, dites-vous, de la rencontre entre la gauche, le pouvoir et l'argent. Est-ce que c'est ça aussi l'explication de la mort de Pierre Bérégovoy?
Je pense que Bérégovoy était un hyper réaliste, n'était pas un dogmatique. C'est quelqu'un qui s'est, comme je l'ai dit, confronté à la réalité et qui s'enorgueillissait de l'avoir toujours dominé. Je pense que cette violence qui se fait à lui-même, cette brutalité insensée, cette balle qu'il se met dans le crâne, elle renvoie évidemment la gauche à ses propres démons. C'est-à-dire qu'il est lui en plus l'image de celui qui a totalement... En permanence, essayer d'associer le socialisme et l'économie de marché. C'est lui qui a accroché, finalement, qui a été l'ouvrier de l'accrochage de la France à l'Europe. C'est lui qui a libéralisé le mouvement des capitaux, etc., etc., qui a modernisé le capitalisme français. Et au final, en 93, ai-je rendu cette société meilleure? Ai-je défendu ce peuple dont je suis issu? Ça, c'est peut-être moins sûr. Et l'association entre l'aspiration à gouverner et l'aspiration, finalement, à réformer la société, peut-être que là, il y a un vrai échec.
Merci, Jacques Follero. Bérégovoy, le dernier secret, c'est le titre de votre livre, dont je recommande la lecture, et qui vient de paraître chez Fayard dans la collection Documents. À voir aussi La double mort de Pierre Bérégovoy, un documentaire de Francis Gillery qui sera diffusé sur France 3 le 3 mai à 23h10, mais qui défend, lui, je crois, la thèse de l'assassinat. Vous avez pu entendre des extraits d'un documentaire, Pierre Bérégovoy, la vérité sur ses derniers jours, de Christophe Widmann, récemment diffusé sur France 2, dans l'excellente émission de Laurent Delahousse, Un jour, un destin, ainsi que des extraits de L'Histoire en direct, diffusé sur France Culture en février 1996. Le texte de Libération était lu par Bernard-Pierre Donadieu. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com.